Et jusqu'à 14h, cette édition spéciale se poursuit. Vos questions et les réponses de deux très fins connaisseurs de la politique. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Comme après le premier tour, vous êtes à nos côtés. Merci beaucoup. Vous qui êtes le co-auteur de ce livre, La France sous nos yeux, aux éditions du Seuil. Également avec nous, avec vous, jusqu'à 14h, Maxence Lambrecq. Bonjour Maxence.
Bonjour Bruno. Bonjour.
Je vous laisse vous installer du service politique de France Inter. Commençons, Maxence, peut-être par repeigner la carte de géographie du vote hier.
La carte de France que j'ai sous les yeux, c'est pas une France coupée en deux, est-ouest, basiquement bleu marine, orange. Non, c'est plus subtil que ça. Le nord-est, le pourtour méditerranéen, la Corse, les Outre-mer ont placé Marine Le Pen en tête dans tout, dans ces départements. Mais quand on zoome, oui, on se rend compte que les grandes villes sont oranges. Clairement, dans le nord par exemple, il n'y a que la métropole lilloise qui est orange, le sud du département, le nord, le Dunkerquois, est bleu marine. Autour de Reims, Macron est en tête.
Dans la Marne.
Dans la Marne. Ouais. Troyes, Arras, Nancy, Metz.
Amiens,
évidemment, la ville native du président. Autour de ces grandes villes, c'est souvent un océan bleu marine. Toute la façade atlantique a voté Emmanuel Macron, comme en 2017, point commun. Mais Marine Le Pen gagne du terrain. Et ça, c'est une carte assez frappante, c'est celle-ci, qui compare l'évolution entre les scores de Marine Le Pen en 2017 et 2012. On voit bien que...
Là où c'est bleu foncé, c'est là où elle progresse.
Voilà,
et regardez la Bretagne. Et Bretagne.
Regardez la Bretagne, voilà. Le centre de la Bretagne. Elle progresse de 10 points, de 15 points dans le centre de la Bretagne. Elle progresse aussi dans le couloir de la Garonne. Elle progresse dans le nord de la Gironde. Et c'est dans des coins où Marine Le Pen n'y arrivait pas. Et là, c'est clairement un vote pour Marine Le Pen. Elle avait deux départements en tête.
Hein. Ouais.
C'était l'Aisne et le Pas-de-Calais. Elle en a 28 hier soir.
Avant d'aller plus loin, Maxence, un premier commentaire sur ce qui vient d'être dit, Jérôme Fourquet.
Oui, alors on a toujours des différences régionales et puis surtout ce clivage entre les grandes métropoles et puis ce qu'on pourrait appeler la France périurbaine, oui, ou périphérique. On a montré, ça fait longtemps déjà que ça se manifeste, mais ça s'est amplifié encore et on voit que on peut calculer les votes en fonction de la distance de la commune à la grande métropole la plus proche, et en gros c'est entre 30 et 50 kilomètres d'une grande aire urbaine que le vote RN atteint son amplitude la plus importante. Alors ça renvoie à plusieurs choses, d'abord au fait que les catégories sociales ne sont pas toutes homogènement réparties sur le territoire, les ouvriers, les employés qui votent plus favorablement ou facilement pour le Rassemblement National habitent préférentiellement dans ces endroits-là, oui, tandis que les cadres, professions intellectuelles, sont plus concentrés dans le cœur des villes. On voit bien la question aussi du prix de l'immobilier, oui, du degré de dépendance à la voiture, et puis sur les évolutions régionales que vous pointiez, dans le nord de la Gironde, dans le Médoc ou dans le centre Bretagne, nous sommes dans des zones rurales qui sont aujourd'hui socialement en difficulté avec beaucoup de populations modestes. Ça fait déjà un moment que le RN s'est implanté et est en train de pousser dans ces territoires-là.
Maxence ?
Non, après, il faut pas se tromper non plus d'analyse. C'est pas une carte. La France n'est pas coupée en deux, blanc et noir. Oui. Les grandes villes ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Oui. Je veux dire, c'était l'un des phénomènes d'ailleurs de ce premier tour. À Lille, à Nancy, à Metz, etc.
À Strasbourg.
Oui. Et donc, voilà. Aujourd'hui, hier soir, en effet, les grandes villes se sont affichées en orange. Mais on verra aux législatives qu'elles ne le sont pas. Et sans doute que le vote de gauche, il sera fort. Et ce ne sont pas que des grandes métropoles acquises à la cause d'Emmanuel Macron.
Ça amène une question, Jérôme Fourquet. Le report des voix Mélenchon ne s'est pas si mal fait que ça.
Non.
À plus de 40%, les électeurs de Mélenchon premier tour,
oui,
ont,
oui,
voté Macron.
Oui, plus de 40% ont voté pour Emmanuel Macron. Seulement 13% ont voté pour Marine Le Pen. Ouais. Le reste s'abstenant ou votant blanc ou nul. Ce qui est intéressant, c'est quand on affine l'analyse, on s'aperçoit que ces scores vont varier selon les endroits et selon le type d'électeur mélenchoniste. C'est-à-dire que dans la France rurale ou des petites villes, l'électorat, ou regardez ce qui s'est passé dans les dom-toms par exemple,
oui,
toute une partie de l'électorat mélenchoniste a basculé sur le vote RN, alors que l'électorat mélenchoniste des grandes métropoles, notamment des jeunes diplômés ou autres, eux ont plus fait barrage et ont plus pratiqué le Front Républicain.
Bon, on va vous faire dialoguer, Jérôme Fourquet, avec deux de nos auditeurs sur ces thèmes-là. Maurice, bonjour Maurice.
Bonjour monsieur.
Je vois sur ma petite fiche que vous êtes un lecteur de Jérôme Fourquet, donc...
Oui, tout à fait. je suis un lecteur assidu. Mais, et
merci,
attentif,
monsieur.
Voilà.
Quelle est votre question ?
Alors ma question est la suivante. je suis un retraité de 77 ans, je le précise. La question est la suivante. Le vote de Monsieur Mélenchon, quand je l'avais regardé au premier tour, me paraissait à moi, et la question que je voudrais lui poser, largement artificiel et extrêmement fragile. Il me semble que, parce que on voit bien que dans les villes, le report justement que vous expliquez, là vous venez de dire à 42%, ne serait pas justement le témoignage de cette fragilité qui, contrairement à ce qu'il dit, ne va pas se reporter comme ça, comme un seul homme pour les législatives, et qu'il va pas retomber à son étiage, n'est-ce pas, naturel. Ça me paraît, voilà, c'est une question que je me pose.
Eh ben, on va la soumettre, Maurice, à Jérôme Fourquet. Autrement dit, est-ce que, du côté de Mélenchon au premier tour, il y avait aussi un vote, une part de vote utile, qui va se perdre, du coup, aux législatives?
Alors, oui, sans doute. Alors, on peut s'appuyer sur le précédent de 2017. Où Jean-Luc Mélenchon, on le rappelle, fait quasiment 20% au premier tour. Et ensuite, il y a une déperdition très importante aux législatives, avec notamment toute une partie de son électorat qui, dans la jeunesse ou le public le moins diplômé ou le moins aisé socialement, s'abstient. Et donc, pour répondre à la question de notre auditeur, il y a deux phénomènes, je pense. D'abord, il y a une hétérogénéité sociologique et politique des insoumis, on le voit dans les reports, certains sont reportés, d'autres sont restés chez eux, donc c'est pas homogène.
Petite parenthèse, les mélenchonistes du premier tour, version quartier populaire, se sont reportés comment?
Alors, si on est dans les banlieues, il y a un taux de report qui est assez élevé.
Pour Emmanuel Macron.
Pour Emmanuel Macron, mais surtout contre Marine Le Pen. Là, c'est la thématique du barrage contre l'extrême droite qui a pas mal fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'il en sera pour les législatives? C'est lié en partie à l'hétérogénéité de cet électorat, mais comme d'autres électorats, parce qu'à partir du moment où vous faites 20-22% des voix, vous agrégez des gens qui sont parfois différents. Et puis, il y a la question quand même de l'abstention. Est-ce que, et c'est pour ça, je pense que Jean-Luc Mélenchon, hormis son équation personnelle, mais a décidé de prendre la tête de ce combat-là pour les législatives, parce qu'il a bien senti que s'il n'était pas là comme locomotive, on risquait d'avoir une démobilisation dans son électorat, comme on avait eu aussi dans l'électorat du RN, aux législatives. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Beaucoup de nos concitoyens, notamment ceux qui sont les moins politisés, se disent qu'ils ont fait leur travail d'électeur en allant aux deux tours de la présidentielle et qu'après, pour les législatives, c'est plus vraiment de leur ressort. Et ça, voilà, il y a une déperdition avec aussi le fait que il y a un peu parfois une gueule de bois quand vous y avez cru et puis votre candidat était battu.
Maxence, en vrai. Non, le RN avait perdu la moitié de ses électeurs entre le second tour de la présidentielle de 2017 et le premier tour des législatives. La moitié des électeurs du RN étaient restés chez eux. Et en effet, ce phénomène pourrait se reproduire. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon n'a même pas attendu le soir du second tour pour dire allez-y aux législatives, il y a un troisième tour. C'est pour ça que Marine Le Pen était extrêmement combative dès hier soir 20h10 pour dire il y a un troisième tour qui va se jouer. Parce qu'en effet, en plus, c'est dans 7 semaines, donc il y a le temps de retomber.
7 comme 4 et 3, pas CE2TE.
Oui. 7, le 12 et 19 juin, c'est dans assez longtemps, ce sera évidemment les beaux jours. Et l'abstention, l'abstention, vous disiez, dans les quartiers populaires, Bruno, la Seine-Saint-Denis, clairement ne s'est pas mobilisée. Enfin, les chiffres de l'abstention en Seine-Saint-Denis restent très élevés et elle a progressé entre le premier tour et le deuxième tour.
Mais il y a eu des bons reports pour Emmanuel Macron, néanmoins, dans ces quartiers. Alors, juste pour compléter les dernières législatives en 2017, on a 50% d'abstention au deuxième tour. Oui. Alors qu'on partait de 75% de participation à la présidentielle quelques semaines plus tôt. Et donc, pour tous les électorats des candidats qui ont été battus, au premier comme au deuxième tour, il y a un enjeu majeur, c'est de maintenir la flamme, si je puis dire, et de faire aller voter de nouveau leurs électeurs.
Allez, la carte de géographie, on continue en direct avec nous, notre correspondante dans la région lyonnaise. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région de France, a plébiscité Emmanuel Macron hier.
Oui, 28 départements ont placé Marine Le Pen en tête, mais pas un seul. En Auvergne-Rhône-Alpes, le résultat le plus serré est en Haute-Loire, fief de Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région. Emmanuel Macron y devance Marine Le Pen de 600 voix seulement. Le président réélu engrange son plus haut score dans le Rhône. À Lyon, en particulier, victoire écrasante, 80% des Lyonnais le préfèrent à la candidate du Rassemblement National, avec des taux de participation plus élevés que la moyenne nationale. La participation est retombée par contre en périphérie de Lyon. Après le sursaut du premier tour à Villeurbanne, à Vénissieux, à Saint-Fons, une mobilisation qui avait profité alors à Jean-Luc Mélenchon, les quartiers populaires ont délaissé les urnes hier. Exemple à Vaux-en-Velin, moins de la moitié des électeurs est allé voter. Il y a plus d'abstentionnistes que de votants dans cette commune de l'Est lyonnais qui est aussi l'une des plus pauvres de France. Alors comment ont réagi les figures politiques de la région à ces résultats? Silence chez Laurent Wauquiez depuis son tweet « à voter hier ». L'ancien patron des Républicains prudent alors que son parti se divise. Quant aux écologistes, que ce soit le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, le maire de Grenoble, Éric Piolle, ils appellent à l'union pour les législatives. Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, souhaite, je cite, un rassemblement pluriel pour imposer une cohabitation au président Macron.
Jérôme Fourquet, un mot de commentaire sur la situation en Auvergne-Rhône-Alpes?
Oui, alors on retrouve à peu près les mêmes logiques avec le cœur des métropoles. On a parlé des quartiers populaires et puis aussi voilà de ces territoires plus périphériques, typiquement la Haute-Loire, oui, où Marine Le Pen performe et fait des scores très importants. Alors ce qui est frappant aussi quand même, c'est de regarder ce qui s'est, on parlait de Lyon, pour regarder ce qui s'est passé à Paris. À Paris, Marine Le Pen fait 15% des voix. On est dans la ville capitale, 2 millions d'habitants, 15% des voix, donc il y a un différentiel de 26 points avec la moyenne nationale. Ouais. Et donc on est la région, la ville qui concentre les lieux de pouvoir et qui est quand même très démarquée par rapport à la moyenne nationale. J'ai regardé en 2002, quand Jean-Marie Le Pen...
Le Pen-Chirac,
on était à 10% de vote Le Pen à Paris, il y avait 8 points d'écart avec le national. Donc tout ça s'est creusé considérablement depuis quelques années.
Deux France face à face ou trois France, Jérôme Fourquet? Je voudrais faire vivre au fond un débat entre des politologues qu'on aime bien, entre vous qui avez tendance à opposer deux France et Brice Teinturier qui nous dit il y a pas deux, il y en a au moins trois. Le vote Mélenchon n'est pas réductible au vote Le Pen. Qu'en dites-vous?
Oui, alors c'est tout à fait vrai. Tout dépend le scrutin que vous prenez comme scrutin de référence. Oui. Si on est sur un second tour, par la force des choses, il y a deux blocs qui s'affrontent avec, comme vous l'avez dit, toute une partie de l'électorat mélenchoniste qui a voté Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, mais qui n'est pas assimilable à un électorat macroniste. Moi, je reste sur ma thèse de la société française archipélisée, et avec des blocs qui se réagrègent de manière plus ou moins durable. Certains avaient pensé, je reviens à la question de votre auditeur, que le vote Mélenchon ne perdurerait pas après 2017. Effectivement, les élections intermédiaires n'ont pas été bonnes pour les insoumis. Et puis, il a retrouvé et même amplifié son socle de 2017. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se dessiner sous nos yeux. Et on est, en fait, dans une phase de décomposition-recomposition. On parlait de ces trois blocs. Ce qui était quand même très frappant, c'était de voir l'état des Républicains et du Parti Socialiste. Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, ça fait 6,5% des voix au premier tour. Donc c'est, à mon avis, un des enseignements majeurs, c'est l'effondrement de ces vieux partis et puis le début de recomposition de quelque chose de différent autour de plusieurs blocs.
Maxence, vous qui avez longtemps suivi l'actualité de l'extrême droite, du Rassemblement National, est-ce qu'il y a toujours un plafond de verre? Est-ce qu'il est de plus en plus ténu, ce plafond de verre? Quels enseignements, du côté de l'extrême droite, on tire de ce scrutin?
Alors, ils partent du principe que cette fois-ci, c'est bon. Plus de 50% du vote Le Pen est un vote d'adhésion. Ce qui n'était pas le cas lors des dernières échéances. Et ça, pour eux, c'est un marqueur fort. Plus de 50% adhèrent et non rejettent l'adversaire qui est en face, en l'occurrence Emmanuel Macron. Le vote d'adhésion augmente. 2 millions et quelques de voix en plus.
2 millions et demi.
2 millions et demi.
Même un peu plus, je parle sous le contrôle de Jérôme Fourquet.
Elle atteint 13 millions 3. Qui est quand même très impressionnant. C'est autant de votes d'abstentionnistes, il y a autant d'abstentionnistes que de votes Le Pen hier soir. Et donc ce plafond de verre, ça va continuer. Je pense que Marine Le Pen est repartie pour un tour. Sincèrement, à l'entendre hier soir, à discuter avec certains de ses cadres, je pense qu'elle sera candidate en 2027 et qu'elle va continuer à tenir, peut-être à avoir un groupe à l'Assemblée. En tout cas, elle fera tout pour et élire 15 députés en juin. Et on sent une énergie encore chez elle. Et un nouveau cliquet qui est passé, et à se dire, on va pas s'arrêter là, Emmanuel Macron ne sera pas candidat, lui, en 2027. quelle va être cette recomposition politique? Moi, je resterai une espèce de pilier de la vie politique et on l'a bien vu en 2022. Les Français ont choisi trois personnes qu'ils connaissaient, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, trois figures connues et donc peut-être qu'en 2027, les électeurs continueront à s'attacher à cette figure et à ce nom Le Pen. Et Marine Le Pen, à mes yeux, je pense, est repartie pour 5 ans.
Jérôme Fourquet.
Alors, juste sur cette notion de plafond de verre, si on se reporte à la présidentielle de 2002, il y avait 20 millions de voix d'écart entre Chirac et Jean-Marie Le Pen. En 2017, on avait 10 millions de voix d'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et cette année, on a 5,5 millions de voix d'écart entre les deux finalistes.
Quasiment divisé par deux
donc
à chaque fois.
Ouais. Voilà, il y a la tendance et donc on comprend pourquoi Marine Le Pen s'accroche peut-être en disant peut-être que la quatrième fois sera la bonne.
Son père a été candidat 5 fois.
Hein. Voilà. Et n'en déplaise à Éric Zemmour qui a dit que le nom Le Pen avait été battu 8 fois de suite, mais battu en progressant. Alors, si on regarde aujourd'hui où est-ce que ça coince encore pour le Rassemblement National, eh bien, on voit que dans toutes les tranches d'âge qui sont des tranches d'âge actives en âge de travailler, les 25-55 ans, on est à 50-50. Et le gros verrou, ce sont essentiellement les retraités. Les plus de 65 ans, ouais. 70% ont voté pour Emmanuel Macron. Et donc, si Marine Le Pen entend poursuivre son offensive, aujourd'hui, la zone de conquête, c'est dans l'électorat retraité. C'est un électorat qui est stratégique, qui pèse très très lourd. On est un pays qui vieillit. C'est un électorat qui vote plus. Et donc, c'est vers cet électorat-là que Marine Le Pen doit, si elle veut enfoncer définitivement le plafond de verre, faire porter ses efforts.
Et les 50-59 ans ont voté majoritairement Le Pen, ce qui laisse entendre que le sujet de la réforme des retraites est un sujet clé parce que tous ces gens-là approchent de l'âge de la retraite.
Tout à fait. Et c'est clé aussi à l'envers, c'est-à-dire que pour conforter votre score chez les plus de 65 ans qui sont tous à la retraite,
ouais.
Et bien dire qu'on va reculer l'âge de départ, c'est toujours bien vu. Par ceux qui sont déjà à la retraite et à qui on assure ainsi que la pension sera versée.
Patrice au standard. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour à tous et bonjour en particulier à Jérôme Fourquet,
bonjour.
Que je lis également avec beaucoup de plaisir. Voilà, ma question porte sur nos compatriotes des Dom-Tom, des Antilles, des Comores, de La Réunion, qui ont voté massivement pour Marine Le Pen, alors que au cours de la dernière quinzaine, que j'appellerais la quinzaine antifasciste, on nous a expliqué que Marine Le Pen, c'était l'extrême droite. D'ailleurs, vous avez employé le terme 8 fois, je crois. Non, moi, je vois que le peuple, que les gens soient noirs, blancs, violets, ou musulmans ou pas, regardez ce qui s'est passé à Mayotte, à partir du moment où on n'est pas perturbé par cette espèce de discours qui amène des gens du peuple à avoir peur, eh bien, on se rend compte que Marine Le Pen, c'est Chirac.
Alors,
arrêtez avec vos couillonnades de l'extrême droite, ou alors là-bas, les Noirs, les musulmans. Pourquoi ils ont voté pour elle?
Alors, on va vous laisser vos expressions. Néanmoins, je retiens deux questions. Et merci, Patrice, de nous avoir appelé. Petit 1, explication du vote outre-mer.
Alors, ça fait un moment déjà que Marine Le Pen obtient des résultats importants dans une partie des Outre-mer, parce qu'on ne va pas globaliser, il y a des différences très nettes, ouais. Par exemple entre la Polynésie, les Antilles, la Guyane. Donc ça fait un moment déjà que ça pousse pour le Rassemblement National, autour de problématiques sociales, comme on peut l'observer en métropole, mais aussi sur des questions de sécurité et d'immigration. Et là, l'exemple type, c'est ce qui se passe à Mayotte, avec des flux migratoires qui sont totalement hors de contrôle, et un vote Le Pen qui est fort dans ce territoire-là. On a la même chose en Guyane. D'ailleurs, Marine Le Pen ne s'y est pas trompée. Elle s'est rendue à plusieurs reprises dans les Outre-mer. Et c'était intéressant de voir que, au moment où Éric Zemmour était en Arménie, il théorisait le choc de civilisation avec la menace islamiste, elle était de mémoire
à Mayotte.
Et quand Éric Zemmour était dans un autre déplacement, au Trocadéro, elle était de mémoire aux Antilles et en Guadeloupe. Mmh. Donc elle a ciblé cet électorat-là. Et dernier élément, notamment aux Antilles et en Guyane, on ne peut pas exclure aussi le phénomène anti-vax de l'analyse, qui a énormément crispé la situation locale. On rappelle que à notre auditeur que en Guyane et aux Antilles, Jean-Luc Mélenchon vire en tête au premier tour, mais avec des scores de 50%, et que ce vote d'opposition à Emmanuel Macron se transforme en partie en vote en faveur de Marine Le Pen au deuxième tour. Donc vous voyez que les choses sont assez complexes.
Patrice nous dit autre chose, il nous reproche d'utiliser trop le terme extrême droite. La question que ça amène, Jérôme Fourquet, c'est est-ce que cette notion-là, la peur de l'extrême droite chez certains électeurs, a joué, ou est-ce que l'élection s'est jouée sur d'autres critères, critères de compétences, d'assises comme chef d'État?
Alors ça jouait encore, et pour aller mettre les pieds dans le plat pour répondre à votre auditeur, on parle d'électeurs issus des immigrations, ouais, des électeurs noirs ou autres. Il y a une situation dans les dom-toms, il y a une situation en métropole. Quand vous regardez l'électorat qui se revendique de confession musulmane, 85% d'entre eux ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Alors il y en a quand même 15% qui ont voté pour Marine Le Pen. Et cet électorat s'était puissamment mobilisé pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Et tous les témoignages, les reportages que vos confrères ont pu faire dans ces quartiers montraient que un des principaux arguments avait été faire barrage à Zemmour et Le Pen. Donc le réflexe contre ce que ces électeurs considèrent être l'extrême droite, fonctionne encore dans toute une partie de l'électorat, soit de confession musulmane, soit issu de l'immigration, avec ensuite des modulos. On voit par exemple ce qui se passe dans les dom-toms en fonction des contextes locaux.
Maxence Lambrecq, les législatives, c'est dans 7 semaines?
C'est dans 7 semaines, tout à fait. C'est avant le 20 mai qu'il faut être candidat, si Bruno voulait être candidat. C'est le 20 mai à 18h, et le scrutin donc le 12 et 19 juin.
On parlait des deux ou trois France, Jérôme Fourquet. Effectivement, vous êtes sur la thèse d'une France archipélisée. Où sont les lignes de fracture, en tout cas dans le résultat d'hier? Est-ce que plus on est riche, plus on vote Macron?
Oui.
Est-ce que plus on est vieux, plus on vote Macron?
Alors, c'est pas plus on est vieux, c'est, on l'a dit, c'est est-ce qu'on est retraité ou pas? Parce que vous voyez qu'entre 25 et 55 ans, il n'y a pas une gradation dans le vote Macron. C'est la France qui travaille et celle qui est retraitée. C'est ça le clivage.
Confiance en l'avenir. Là, il y a une ligne de clivage nette.
Oui, bien sûr. Il y a deux autres variables très importantes. Le niveau de diplôme.
Oui.
C'est très très net. Plus on est diplômé, plus on a voté pour Emmanuel Macron. Et une autre variable qui est le sentiment qu'on a d'être en ascension ou en déclin. Ou en déclassement par rapport à la génération qui vous a précédé. Ça, c'est très très net quand on pose des questions dans les enquêtes en disant est-ce que vous vivez mieux, moins bien ou pareil que vos parents au même âge. Les gens qui se sentent en déclassement ont puissamment soutenu Marine Le Pen, et ceux qui pensent qu'ils sont en situation de stabilité ou d'ascension ont eu plus facilement réflexe de voter pour Emmanuel Macron. Ce qu'on retrouve dans les territoires, On a ressorti dans nos archives une étude passionnante qu'on a retrouvée, une enquête de 1963 où on demandait aux Français est-ce que vous avez le sentiment que votre région est en avance ou en retard économiquement par rapport aux autres régions françaises. En 1963, donc on est en pleine Trente Glorieuse, vous avez tout le nord-est du pays industriel qui se perçoit à l'époque comme la locomotive économique du pays, et toute la façade ouest où on termine juste l'exode rural qui se perçoit comme en déclin. On a reposé la question en 2015, les chiffres sont totalement inversés, et vous avez une clé d'explication de la carte que Maxime a détaillée tout à l'heure.
Parmi ceux qui se disent insatisfaits par leur vie personnelle, 79% votent Marine Le Pen. Ouais. Les personnes insatisfaites, c'était l'un des critères qui a été pris. Et ça, c'est vrai que, pour revenir à la question d'avant, les Outre-mer, ça restera un argument électoral très fort pendant encore les mois qui viennent pour le RN. Dire oui, regardez, cette France colorée et musulmane vote pour nous. Ça fera partie des éléments de langage, des arguments qui seront régulièrement ressortis quand il y aura ces accusations de racisme.
Jérôme Fourquet, je me souviens que lorsque vous étiez venu après le premier tour, on avait noté le vote coquet, conséquent dans les beaux quartiers pour Éric Zemmour. J'ai regardé ce Versailles, les Hauts-de-Seine, ont voté Macron. Le 16e, ont voté Macron et largement. Ça correspond à ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire c'est des électeurs qui se sentent assis et plutôt en ascension.
Oui, alors, sachant que quand même ces quartiers-là, si on prend le 16e arrondissement, sauf erreur, je crois que c'est l'arrondissement où Marine Le Pen fait son meilleur score dans Paris.
Oui.
Et donc, on a deux bourgeoisies, en fait. On a une bourgeoisie qui vote Macron, et une autre qui est plus traditionnelle, plus conservatrice, qui a voté Zemmour.
Ouais.
Et ce qu'on peut penser, c'est que le vote Zemmour a été un espèce de sas qui a permis, dans ces quartiers-là, à une partie de cette population, au deuxième tour, à voter Le Pen, ce qu'elle n'aurait pas fait sans le passage par le vote Zemmour au premier tour.
Dernière question, celle de Sophie au standard. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors moi, ce qui me paraît un peu étrange dans ce que j'entends depuis ce matin, c'est qu'on mette dans le même sac les abstentions et les votes blancs. Il me semble que, alors les gens qui s'abstiennent, ils ont leurs raisons, certainement. Quel est le pourcentage qui présente un désintérêt pour la politique, on n'en sait rien. Quant aux votes blancs, on ne peut pas dire que ce soit des gens qui se désintéressent de la politique, puisqu'ils prennent quand même la peine de se rendre aux urnes.
Merci.
Alors moi, je trouve ça très dommage.
Merci pour votre remarque. Est-ce qu'on peut affiner les choses, Jérôme Fourquet ?
Oui, alors, on a un score très élevé de bulletins blancs et nuls, qui représente cette année, au deuxième tour, 8,5% des votants. Et traduit en chiffres bruts, c'est 3 millions.
Ouais.
Donc il y a 3 millions de Français qui parfois ont patienté longtemps dans les files d'attente, dans les bureaux de vote, pour aller mettre un bulletin blanc ou nul dans l'urne. Et donc ça aussi, à côté de l'abstention, on ne les confond pas, c'est aussi un paramètre à prendre en ligne de compte. J'ai regardé en 81, Giscard Mitterrand, donc grand affrontement politique, il y a 2,9% de blancs.
Ouais.
En 2002, on est à 5, donc le choc Chirac-Le Pen, on est à 5,4% de blancs. Et cette année, on est à 8,5% de blancs et nuls. Voilà. Donc ça progresse aussi. Et ça illustre aussi le fait que, on parlait de ces trois France tout à l'heure, ouais. il y en a sans doute plus que trois. Et toute une partie de ces France ne se sont pas reconnues dans l'affiche de la finale. Mais en tant que bons citoyens, ils sont allés quand même expliquer qu'il ne participerait pas à ce choix.
Et faire la queue, vous avez raison de le souligner.
Comme il ne s'était pas reconnu non plus en 2017, puisque l'étiage est à peu près le même. Vote nul et blanc, on peut considérer que c'est la même chose. Certains s'amusent à écrire n'importe quoi sur le bulletin de vote pour voter blanc. 3 millions, on est à peu près dans le même étiage. Donc 2017-2022, sur le nombre de bulletins blancs et nuls, c'est à peu près pareil.
Jérôme Fourquet, il nous reste 15 secondes. Le pouvoir d'achat, le climat, les retraites pour les législatives, ce sera ça les trois sujets.
En partie, et puis aussi l'attitude du président. On a entendu des annonces hier sur le fait qu'on allait changer la gouvernance et autres. Emmanuel Macron est parfaitement conscient de l'état du pays, je pense, quand vous regardez les résultats, et donc on entendait vos reportages, est-ce qu'on va concerter si ça passe pas, est-ce qu'on recourt de nouveau 49-3 ou autre. Là, on peut braquer la...
Grande prudence à l'Élysée jusqu'à juin. Hein. Sincèrement, il n'y aura pas de coup d'éclat, sans doute pas de petites phrases, très peu de bains de foule pour éviter les sorties. On est très prudent chez Emmanuel Macron et on travaille précieusement à la composition du gouvernement. Ça prendra au moins une semaine, peut-être deux semaines, avant d'offrir une architecture politique. Mais voilà, essayer de peser, sous-peser les équilibres.
Merci beaucoup à tous les deux. Maxence Lambrecq, service politique de France Inter, Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux avec Jean-Laurent Casselli, C'est au seuil. Et vous êtes le directeur du département opinion de l'IFOP. Merci beaucoup. Dans un instant, le flash de 14h.